Nouveau départ de votre émission littéraire sur Radion. Bonsoir à tous et à tous. Yannick Petit en votre compagnie et je suis une fois de plus très heureux de vous accueillir à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le 172e numéro de votre rendez-vous culturel. Cet été, nous nous sommes déplacés, oui, et nous nous sommes rendus dans la Nièvre, dans une très jolie cité thermale. En effet, nous sommes allés à Saint-Honoré-les-Bains où le dimanche 20 juillet dernier se tenait la 21e édition d'une très belle fête du livre, c'est Bains de Livres à Saint-O. Une fête du livre devenue le rendez-vous estival de tous les amoureux du livre et du cinéma. Alors c'est une manifestation organisée par Evelyne Philippe, une manifestation qui s'adresse à un large public et qui réunissait salle Sidney Bechet une trentaine d'écrivains. Cette année, pour sa 21e édition, le romancier Philippe Villain et Loïc Corbery de la Comédie Française étaient les invités d'honneur avec Agnès Martin-Lugan. Philippe Villain, que vous entendrez ce soir à notre micro, est l'auteur d'un roman intitulé « Pas son genre » chez Grasset, adapté il y a quelques mois au cinéma par Lucas Bellevaux avec, dans les rôles principaux, Émilie Duquesne et Loïc Corbery. Autre invité d'honneur, je vous le disais, Agnès Martin-Lugan, romancière très 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 connue pour un premier roman publié à plus de 150 000 exemplaires et qui a pour titre « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Nous avons rencontré Agnès Martin-Lugan, elle nous parlera aussi de son tout dernier roman sorti en juin dernier. Mais tout de suite, sans tarder, place au polar pour ouvrir notre émission avec l'auteur aux éditions de l'Armançon du Corbeau de Cortevaux. Tout de suite, Christine Bonnard à notre micro.
Bon, je suis Christine Bonnard, je suis née dans le Rhône, mais j'habite le Morvan depuis une trentaine d'années. Et donc tout naturellement, quand j'écris quelque chose, je l'écris, ça se passe dans le Morvan, parce que c'est la région que j'aime et où je vis.
Alors vous êtes retraité de la Poste, oui. Vous avez travaillé à Autun, vous avez vécu à Saint-Léger-sous-Beuvray, et voilà que l'écriture vous ramène encore dans le Morvan avec ce roman. C'est un premier roman ?
Oui, j'écris depuis très longtemps, mais c'est la première fois que je fais la démarche d'être édité, en fait, de présenter quelque chose à un éditeur. Et ça, en fait, c'est un roman, c'est une intrigue policière sur fond d'une histoire d'amour qui se passe dans le Morvan d'aujourd'hui.
Alors que se passe-t-il, dans un peu plus de détails, que se passe-t-il dans ce village morvandio de l'enfance de l'héroïne ?
Eh ben, c'est quelqu'un qui revient vivre dans le village de sa grand-mère et où elle se rend compte qu'il se passe des choses un peu mystérieuses et comme elle est très curieuse, elle veut voir, en savoir plus. Et ça l'amène un peu à se mettre en danger et aussi à partir justement à Paris. Il y a une partie où ça se passe, il y a un chapitre qui se passe à Paris. Et en tant qu'auteur, ça me donne l'occasion aussi de décrire des choses que j'aime sur Paris aussi, parce que j'aime beaucoup aller à Paris, même si je vis dans le Morvan. Et donc c'est un peu ça. C'est un peu un prétexte à décrire plein de choses, plein de gens, plein de paysages.
Alors quels sont les éléments mystérieux alors ?
Alors la première chose, c'est une lumière dans une maison qui est censée être vide. Et voilà, mais après si je vous raconte tout...
Il ne faut pas tout raconter.
Voilà,
mais je vais demander à Marc Ray, co-gérant des éditions de l'Armançon, qui fait partie du comité éditorial, de nous donner son point de vue aussi sur ce roman. Marc Ray.
Alors ce que Christine n'a pas dit, c'est qu'elle habite à Nau. Et ce qu'elle n'a pas dit non plus, c'est qu'elle est copine avec Didier Cornaille, qui est assez connu dans le coin. Et l'édition, c'est aussi une affaire de copinage et d'amitié. Et c'est Didier, je crois, qui nous avait donné le manuscrit. Et quand je l'ai lu, Alors, il y a des excellents livres sur le Morvan, mais c'est quand même la tendance, comment que c'était bien dans le temps le Morvan quand il y avait les toilettes au fond du jardin, quoi, sommairement. Et là, je me suis dit, ah, enfin, c'est le Morvan d'aujourd'hui, avec des vrais téléphones portables et des vrais flics avec des costumes de maintenant, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'a séduit dans cette tendance.
Donc, c'est un Morvan réactualisé.
Morvan d'aujourd'hui, tout simplement. C'est le Morvan tel que je le connais, moi. Enfin,
c'est voilà. Pas le Morvan pittoresque.
Voilà, c'est pas le Morvan pittoresque. Exactement. Cherchez le mot. Oui, bravo. Et donc, c'est ça qui m'a séduit. Donc, une belle histoire d'amour et aussi une belle histoire d'aventure. Parce que quand Christine dit que la dame se met en danger, elle se met franchement en danger. Là, ça tourne vinaigre assez vers la fin. On se demande comment elle va s'en sortir. Et voilà, c'est ça qui m'avait séduit. C'est une histoire d'aujourd'hui, tout simplement, avec des gens d'aujourd'hui.
Marc Ray, co-gérant des éditions de l'Armançon, pour évoquer le roman de Christine Bonnard. Le roman a pour titre Le Corbeau de Cordevaux. Et c'est un ouvrage disponible en librairie aux éditions de l'Armançon. Si vous en êtes d'accord, nous marquons une première pause musicale en compagnie de Navei. On se sent seul? Non, on n'est pas seul. En tout cas, bonne soirée sur Radio. Nous sommes ensemble à bord de Wagon Livre jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 21e édition de Bain de Livres à Saint-Eau.
Je n'attends rien et je flâne sans raison. J'écoute le bruit des trains, je laisse passer les saisons. Je me noie dans la foule, dans ces rues je me perds. Quelques rêves qui s'écroulent dans la ville des lumières. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. La lune nous éclaire. J'aime quand c'est toi qui conduis, quand tu fredonnes ces airs pour faire danser nos insomnies. On ne regarde plus derrière, on a la vie devant nous. On s'est promis de le faire, de ne pas finir à genoux. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient.
Elle était un des invités d'honneur de la 21e édition de Bain de Livres à Saint-Eau qui s'est tenue donc le 20 juillet dernier. Voici Agnès Martin-Lugan que nous avons rencontrée. Elle a connu un très grand succès avec Les gens heureux lisent et boivent du café chez Michel Lafon. On trouve d'ailleurs le livre actuellement en poche aux éditions Pocket. Son deuxième roman est sorti au mois de juin et a pour titre « Entre mes mains, le bonheur se faufile », toujours chez Michel Lafon. Alors à 35 ans, cette jeune femme, maman de deux enfants, a quitté son métier de psychologue clinicienne pour se consacrer désormais pleinement à la littérature et à l'écriture. Agnès Martin-Lugan nous explique ses débuts en littérature et en fait, la genèse des gens heureux lisent et boivent du café. Agnès Martin-Lugan à notre micro.
J'ai décidé de m'auto-éditer en numérique, donc sur les plateformes de vente en ligne de livres numériques sur Internet. Et donc ça a très bien démarré, puisque en l'espace de 3 semaines, je me suis retrouvée première des ventes de livres numériques sur Amazon. Et c'est à cette époque-là, en fait, que Michel Lafon a remarqué le roman, l'a lu, et ils sont venus vers moi pour me proposer un contrat que j'ai signé quelques semaines plus tard. Et donc ça, c'était en janvier de l'année dernière, donc janvier 2013. Et donc en juin 2013, Des gens heureux lisent et boivent du café sortait en librairie.
Et bingo, à l'heure actuelle, d'après les chiffres communiqués par la maison d'édition Michel Lafon, 150 000 exemplaires vendus.
Oui, 150 000 exemplaires vendus. Il est vendu à plus d'une vingtaine de pays à l'étranger. Donc il a déjà commencé à sortir dans des pays étrangers. Et l'adaptation cinématographique est en cours de développement.
Alors parlons de l'intrigue du premier roman. Ah, on parlera aussi du deuxième. Alors, vous évoquez la vie d'une femme qui a votre âge, hein, 32-33 ans, qui se trouve confrontée au deuil d'un mari et d'une petite fille de 6 ans. Les deux meurent dans un accident de la route. Et elle, en fait, vivait plutôt confortablement à Paris. Elle possède toujours d'ailleurs un café littéraire qui a pour nom Les gens heureux lisent et boivent du café, qu'elle tient avec un employé et ami homosexuel, complètement fantaisiste, ouais. Et qui vit son homosexualité pleinement. Oui. Bon. Et elle est quand même dans une phase de dépression, elle ne côtoie personne, elle est seule dans son appartement, elle boit, elle déprime, elle fume et elle ne fait pas grand-chose. Oui.
Du jour de l'accident qui lui a volé son mari et sa fille, pour Diane, c'est le blackout total. Donc plus rien n'existe, plus rien ne compte. Finalement, la seule chose à laquelle elle pense, c'est les rejoindre d'une certaine façon. Sauf qu'elle n'a pas le courage d'en finir. Donc elle reste là, effectivement, à végéter dans son appartement, les rideaux fermés. Elle se lave quasiment plus, elle ne mange plus. Évidemment, elle ne travaille plus. Et il n'y a donc que Félix qui, au-delà d'être son associé, est véritablement son meilleur ami. Félix vient la voir, il passe tous les jours, il la force à essayer de manger un peu, etc. Et donc, quand on la rencontre, ça fait un an que Colin et Clara sont morts. Et là, Félix, lui, n'en peut plus à ce moment-là. Et il veut la pousser à faire quelque chose. Il lui suggère de partir en vacances. Mais bon, pour Félix, les vacances, c'est les vacances au soleil, dans un club, ce qui va représenter l'horreur la plus absolue pour Diane. Et Diane va prendre une décision fracassante pour Félix. Elle décide de partir s'exiler en Irlande, parce que ça lui rappelle des souvenirs avec son mari. Mais elle décide pas de s'exiler pour s'en sortir. Elle décide de s'exiler pour s'enterrer et être en paix avec ses souvenirs.
Donc elle part au pays des rugbymen mangeurs de moutons. Et là, elle s'installe dans un cottage qu'elle loue à un charmant couple d'Irlandais. Et elle découvre, elle découvre qu'elle a un étrange voisin. Alors, on va peut-être pas trop en dire non plus, mais c'est un roman sur la perte, sur le deuil, et comment, lorsqu'on a 30 ans, qu'on vit une telle déchirure, comment on se reconstruit ? Enfin, comment peut-on se reconstruire si tant est qu'il est possible de continuer à vivre et de se reconstruire ?
Et puis aussi, l'idée, c'était de parler de l'évolution de Diane, qui finalement, avant d'avoir perdu son mari et sa fille, comme vous le disiez tout à l'heure, elle menait une vie douce, elle était légèrement capricieuse, enfin, elle avait ce qu'elle voulait, enfin, elle n'avait jamais vécu de choses difficiles jusque-là, donc forcément, elle ne sait plus rien faire, elle ne sait rien faire toute seule. Et la rencontre avec ces Irlandais, que ça soit donc Abby et Jack, qui sont le couple qui lui loue le cottage, ou son voisin, ça va la bousculer d'une certaine façon. Ça va lui montrer qu'il y a des gens heureux, qu'il y en a d'autres qui vont la pousser dans ses retranchements. Enfin, c'est aussi l'occasion pour elle que son cœur rebatte, mais juste pour vivre, de ne plus être peut-être dans l'attente de mourir et de rejoindre. Voilà, c'est une façon de la secouer, en fait, ce départ en Irlande.
Alors, à Mulrani, effectivement, elle découvre un voisin qui, dans un premier temps, lui apparaît plus qu'antipathique. Il faut dire aussi que ce voisin a perdu sa mère. Donc, le deuil semble totalement en filigrane.
Oui, finalement, ce sont deux personnes. Enfin, ce fameux voisin, il est aussi terriblement marqué par la vie. Donc, et lui a une façon de vivre ses drames et ses deuils d'une façon très rustre et très sauvage. Mais finalement, ils se ressemblent. C'est des blessés, c'est des écorchés de la vie. Et ils ont peut-être quelque chose à s'apporter l'un et l'autre.
Et d'ailleurs, Diane a beaucoup de mal, même un an après la disparition de son mari et après le deuil aussi de cette fillette de 6 ans qui était son enfant, Clara, elle a beaucoup de mal avec son corps. Quelque part, son corps refuse aussi un autre partenaire.
Bah, son corps elle refuse d'être femme. Elle ne pouvait être femme qu'avec son mari. Donc Diane vit en jogging, ne sait plus ce que c'est que de s'occuper d'elle. Et il faut qu'elle réapprenne à faire avec ce qu'elle est. Elle-même, une femme, et peut-être une femme capable de séduire, une femme capable peut-être d'être aimée par quelqu'un d'autre que son mari. C'est aussi une redécouverte d'elle-même.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une réflexion sur le bonheur, sur la quête du bonheur après un drame. Alors, Félix, le grand ami de Diane, porte aussi un prénom, Félix en latin, c'est la joie, c'est l'adjectif qui veut dire heureux. Et puis, il y a des références d'ouvrages dans ce premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café. Au café littéraire animé par Diane et Félix, il y a notamment des ouvrages de Irvine Welsh, Laurent Bettoni et Chuck Palahniuk.
Oui, alors ça c'est effectivement des références qui se trouvent sur la fin, c'est Félix qui veut bousculer les habitudes littéraires de Diane et mettre des choses plus moins conventionnelles, on va dire plus rock'n'roll. Ça c'est un clin d'œil personnel que j'ai voulu apporter, mais voilà, après les autres références littéraires qu'il peut y avoir, je parle d'Armistead Maupin et des Chroniques de San Francisco qui sont le livre de chevet de Félix, évidemment, mais qui...
Et de grand nombre d'homosexuels.
Mais oui, mais moi c'est des livres que je les ai tous et je les reprends avec bonheur et je m'y replonge avec bonheur parce que toutes les histoires sont juste formidables et on se fait embarquer dans leur quotidien et leur vie et leurs soucis. Enfin, voilà, le livre de La belle vie qui, pareil, est une façon voilà, c'est un livre qui traite de l'après 11 septembre, c'est comment reprendre aussi une autre vie après ce drame qui a frappé New York, puisque là il est question de New Yorkais. Enfin, voilà, c'est une question qui me... La quête du bonheur et la quête de l'épanouissement, et ce sont des questions qui me passionnent.
Et des questions qui nous intéressent toutes et tous.
Tous et toutes, à un moment, on se pose cette question-là, qu'on ait vécu un deuil, enfin un drame ou non, c'est comment faire ? Est-ce que je ne peux pas faire mieux ? C'est comment faire pour essayer d'être peut-être encore plus heureux ou juste savourer le bonheur qu'on a, des choses simples.
Alors, Félix, il est gourmand de vie. D'ailleurs, il considère la vie, je vous cite, comme une fête géante pimentée d'une sexualité débridée et d'une consommation de substances qu'il testait en avant-première. Et alors, question qui s'adresse peut-être à l'ancienne psychologue clinicienne concernant le deuil. Diane refuse de se rendre un an après les obsèques donc de son mari Colin et de sa fillette Clara. Elle refuse de se rendre à une cérémonie commémorative au cimetière avec la famille, la belle famille. Et elle parle de stupide cérémonie commémorative. Alors, est-ce que finalement... C'est stupide d'être dans le recueillement, d'être dans, j'allais dire, c'était une culture du deuil. Je ne sais pas. Question.
Pour elle, c'est pas un problème de recueillement, c'est qu'on n'a pas à célébrer leur mort. Elle voit ça comme ça puisqu'elle ne veut pas qu'ils soient morts. Elle refuse qu'ils soient morts. Donc pour elle, se rendre au cimetière un an après et leur apporter des fleurs. Alors qu'ils sont 6 pieds sous terre, pour elle, c'est juste l'horreur. C'est pas un problème de recueillement. Elle se recueille avec ses photos, avec ses souvenirs, avec la façon dont elle est capable de leur parler comme s'ils étaient encore là. Sa façon de ne pas avoir touché au lit défait de sa fille, de porter les chemises de son mari. C'est elle, le recueillement, il est là. De porter le parfum de son mari, de se laver les cheveux avec le shampoing de sa fille. Elle se recueille comme ça. Mais se rendre au cimetière, c'est une violence... C'est une violence, c'est d'une violence inouïe pour elle.
Alors face au deuil, quand on a vraiment une très très grande difficulté à surmonter un deuil, et pour cause, perdre un enfant et son mari en même temps, c'est vraiment terrible. Alors elle ne consulte pas de psychiatre, et en plus, on ne peut pas dire que la religion va consoler Diane, puisque ça ne l'intéresse pas
du
tout.
Non mais elle est dans le déni de tout, plus rien ne l'intéresse. La seule chose qui pourrait la faire aller mieux, c'est le retour de Colin et Clara. Et ou alors qu'on la laisse en paix et vivre comme elle a décidé de vivre depuis qu'ils sont partis, en fait.
C'était Agnès Martin-Lugan, rencontrée le 20 juillet dernier lors de Bains de Livres à Saint-Aux. On la retrouve juste après la pause musicale, puisqu'elle nous présentera son tout dernier roman, Entre mes mains, le bonheur se faufile, aux éditions Michel Lafon. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée sur Radio. On vous remercie d'être fidèles et d'être en notre compagnie ce soir. Tout de suite, Zazie Pascal Obispo, Les meilleurs ennemis.
Ce que nous sommes, amorce de sourire et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi. On s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte. On se soumet.
Et toi contre moi.
La guerre encore. On s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on est le mariage du ciel et de l'eau.
C'est toi contre moi.
On s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste.
Quand tu prends de l'avance,
ennemi.
Le discours quand tu veux le silence,
ennemi.
La corde à ton arc, la corde à ton cou. Fidèle envers et contre nous,
les meilleurs ennemis.
Thank you.
venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes calé sur la fréquence de Radion 90.5 dans le département de Lyon, mais vous nous écoutez aussi très nombreux en Bourgogne, aux quatre coins de France sur le www.radion.fr. Et ce soir, nous vous rendons compte de la 21e édition de Bain de Livres à Saint-Eau qui s'est tenue le dimanche 20 juillet dernier dans cette magnifique cité thermale morvandelle de Saint-Honoré-les-Bains. Comme promis, nous retrouvons la suite de l'entretien avec Agnès Martin-Lugan pour son deuxième roman paru aux éditions Michel Lafon et qui a pour titre « Entre mes mains, le bonheur se faufile ». Nous l'avons rencontrée bien sûr à Bain de Livres à Saint-Eau où elle était invitée d'honneur avec le romancier Philippe Villain. Tout de suite donc Agnès Martin-Lugan pour nous présenter Iris, l'héroïne de « Entre mes mains, le bonheur se faufile ».
Oui, Iris, elle est enfermée dans sa vie de bourgeoise, de province.
Sans enfant.
Il n'y a rien qui la fait vibrer, si ce n'est d'être derrière sa machine à coudre. Elle en est à un stade en plus dans son couple où son mari préfère s'occuper de son travail et enchaîner les gardes plutôt que de la regarder, de lui porter un minimum de considération. Et donc, elle se rend compte au cours du déjeuner de famille que ses parents lui ont encore plus volé sa vie puisqu'ils ont subtilisé la réponse positive à une candidature dans une école de couture qu'elle avait faite peu de temps avant son mariage. Donc là, pour elle, elle va mettre un grand coup de pied dans sa vie. C'est que, dans sa vie professionnelle, j'entends, elle décide de reprendre sa carrière en main. Et alors, il y a beaucoup de conditions qui sont posées par son mari, puisque lui n'est pas du tout satisfait de sa décision. Mais voilà, elle part, et elle part à la quête d'elle-même, finalement. Elle sait qu'elle est à la croisée des chemins, donc si elle ne prend pas en main maintenant sa carrière professionnelle, elle n'aura plus jamais l'occasion de la faire parce que, certes, ils n'ont pas d'enfants au début de l'histoire, mais son mari lui apprend qu'il est sérieusement temps d'en faire, et pas qu'un, et qu'il va falloir qu'elle s'en occupe. Donc, elle n'a plus le choix. Elle a un créneau de temps de 6 mois pour faire cette formation et peut-être espérer un minimum pouvoir assouvir son désir de création et de couture.
Alors, cette formation la conduit et l'amène à Paris, où là, elle est prise en main et remarquée par la responsable de la formation, richissime femme, étrange femme, qu'on pourrait penser parfois plus ou moins amoureuse. Enfin, je ne sais pas trop quelle est la relation entre cette femme, cette veuve, qui remarque Iris, l'encourage, mais qui effectivement est capable aussi de la punir.
Oui, Marthe, donc elle s'appelle Marthe, c'est une femme qui est autoritaire, qui est dictatoriale, mais qui a le regard avisé pour repérer l'artiste qui est en Iris. Donc elle décide de la prendre sous sa coupe, mais quand on est sous la coupe de Marthe, on y est totalement. Et Iris se laisse prendre dans les filets de Marthe avec un bonheur sans nom, parce qu'elle n'imaginait pas qu'une femme telle que Marthe puisse lui porter intérêt et puisse croire en son talent. Donc pour elle, c'est la découverte d'un autre monde, c'est la découverte de la relation entre elle et son mentor, parce que Marthe devient véritablement son mentor. Donc, et Marthe lui permet d'exprimer une facette de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas non plus. Donc, Marthe l'aide à se révéler, très clairement.
C'est aussi un roman sur la tentation, parce qu'il y a un très bel homme, c'est Gabriel. Le prénom n'est peut-être pas gratuit. Gabriel a entre les mains un pouvoir peut-être d'attirer Iris et peut-être de la perdre aussi.
Oui.
Enfin, de l'éloigner.
Oui. Alors, après Gabriel, il n'est pas celui qu'on croit. Ça, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire pour le savoir. Mais il n'est pas celui qu'on croit, mais ce que va procurer Gabriel à Iris, c'est qu'il va la faire. Voilà, elle, il y a la tentation, elle résiste, mais au moins, il y a un moment, elle est capable de voir qu'elle peut séduire, qu'elle peut être femme, puisque son mari lui a volé ça, puisqu'il ne la regarde plus. Donc elle finit par ne plus avoir confiance en son pouvoir de femme, en ses capacités de séduction. Donc finalement, c'est pour elle une façon de réapprendre son corps, ses armes de femme, pour aussi tenter de reséduire son mari. Donc pour elle, ça lui fait du bien. Donc certes, elle a un dilemme extraordinaire parce qu'elle doit lutter contre ce pouvoir qu'a Gabriel, mais elle est lucide aussi sur ce qu'il est. Elle voit tout de suite, elle le sait, Marthe lui dit bien en plus que c'est un séducteur, donc si elle se fait prendre au piège, elle n'a qu'à s'en mordre les doigts elle-même. Donc elle a toutes les clés en main, à elle après de décider ce qu'elle décide de faire ou non.
Agnès Martin Lugan, vous vous sentez plus proche d'Iris ou plus proche de Diane?
Je peux pas dissocier les deux. Je les aime de la même façon. Elles ont fait partie de moi de la même façon intense. Quand j'écris, je fais totalement corps avec mon personnage principal. Donc Diane, effectivement, c'est la première. Mais Iris, en même temps, elle devait réussir à remplacer Diane. Donc elle avait une tâche énorme à faire et je crois qu'elle l'a bien réussi. Donc je mets de moi dans chacun de mes personnages. Donc elles me sont aussi proches l'une que l'autre.
À l'instant, Agnès Martin Lugan, au micro de l'émission littéraire de Radion. Je vous rappelle les titres des deux romans de cette jeune femme de 35 ans. Le premier, Les gens heureux lisent et boivent du café, que l'on peut d'ailleurs trouver en format de poche aux éditions Pocket. Et le tout dernier, qui est sorti au mois de juin dernier, qui a pour titre « Entre mes mains, le bonheur se faufile », c'est en librairie et c'est aux éditions Michel Lafon. On retourne à Bain-de-Livre à Saint-Eau juste après la pause musicale. On a rencontré un juge d'instruction, oui, tout à fait, un juge d'instruction, auteur de nouvelles aux éditions dijonnaises Raison et Passion. D'abord la pause musicale, voici Dernière danse, c'est Indila sur Radion.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Dans tout Paris, je me bats.
Excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de votre émission littéraire. C'est Wagon Livre, toujours sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 21e édition du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains qui s'est tenu dans la station thermale Morvandel le 20 juillet dernier. Quelques petites informations concernant les Salons du Livre. Ne manquez pas le premier rendez-vous de RVLE, c'est-à-dire les rendez-vous du lire et de l'écrire, c'est ce week-end, 5, 6 et 7 septembre, et c'est à Vézelay. La soirée d'ouverture est prévue le vendredi 5 septembre à 18h à la maison Jules Roy de Vézelay avec l'accueil de Jean-Paul Didier Laurent, auteur du roman Le Liseur du 6h27 aux éditions Au Diable Vauvert. Samedi et dimanche, toujours dans le cadre des rendez-vous de RVLE, seront consacrés entre autres à des tables rondes qui ont lieu donc à la maison Jules Roy, c'est à Vézelay. Retrouvez, si vous le souhaitez, tout le programme détaillé sur le blog de RVLE. C'est très simple, à partir d'un moteur de recherche, vous pianotez les rendez-vous du lire et de l'écrire. C'est à la maison Jules Roy, c'est ce week-end, 5, 6 et 7 septembre. Je rappelle aussi, ça c'est dimanche 7 septembre de 10h à 18h, c'est dans la Nièvre, c'est dans un délicieux petit village à une quinzaine de kilomètres au sud d'Avallon, c'est à Saint-André-en-Morvan. Se tient le Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan avec deux invités d'honneur. D'abord un photographe saône-et-loirien que nous connaissons et apprécions beaucoup et que nous saluons parce que c'est un auditeur fidèle de Wagon Livre, il habite en Saône-et-Loire, c'est le photographe Laurent Janin. Bonsoir Laurent. Et Laurent Janin sera l'invité d'honneur du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan avec Guy Carlier qui sera donc présent pour dédicacer son dernier ouvrage. C'est à Saint-André-en-Morvan ce dimanche 7 septembre de 10h à 18h. Je vous propose cette fois-ci d'entendre l'entretien que j'ai réalisé avec le juge d'instruction Thierry Soulard. J'insiste sur son métier parce que le recueil de nouvelles qu'il signe aux éditions Raison et Passion a pour titre « Le juge et le papillon ». Alors, c'était le 20 juillet dernier lors de Bains de Livres à Saint-Eau. Tout de suite, Thierry Soulard.
Je suis actuellement magistrat juge d'instruction à Lyon. J'ai été avant conseiller d'orientation psychologue. Et j'ai fait des études de philosophie. Donc c'est peut-être le tissage de ces trois champs de motivation qui m'ont amené toujours plus ou moins à écrire, et notamment à écrire dernièrement ces six nouvelles. Dernièrement, ce n'est pas exactement le terme, puisque ce sont les 4, 5, 6 qui sont les dernières. Les trois premières ont été écrites maintenant il y a plus d'une dizaine d'années.
Alors, de quoi parlent ces six nouvelles ? Qu'est-ce qui...
Alors, ces six nouvelles ont toutes un objet spécifique. Il n'y a pas de fil qui les relie. Elles parlent, ce qui les relie sans doute quand même néanmoins, ce sont mon expérience de magistrat, puisque en général, c'est toujours dans des cabinets, donc que ce soit juge des enfants ou juge d'instruction, c'est un travail juridictionnel, mais de cabinet. Et souvent, il y a entre le justiciable et le juge des rapports qui se singularisent et qui sont tout à fait exceptionnels et qui permettent ensuite, qui donnent envie ensuite de prendre la plume pour les écrire, pour les momifier et en même temps aussi pour les rendre vivants.
Alors, le juge et le papillon, que vient faire ce papillon ?
Alors, ce papillon, ça ne veut pas dire que le juge papillonne, ce qu'on pourrait penser comme ça à première vue. Ça veut dire, c'est tiré d'une nouvelle. Le titre est tiré d'une nouvelle, le titre est de l'éditeur d'ailleurs, mais c'est cautionné complètement par l'auteur. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Lépidoptère ». Et le juge et le papillon, ça vient de cette nouvelle, c'est tiré de cette nouvelle. Il se trouve qu'une fois, dans les toilettes du tribunal de grande instance, il y avait face à la lunette un papillon, aile serrée, qui se retrouvait entre deux petits carreaux de céramique. Il est resté là pendant des semaines et des mois. Et personne n'osait trop en parler parce que c'était quand même extrêmement gênant d'être observé dans un cabinet non d'instruction, mais dans les toilettes par voilà cet étrange animal, voilà. À partir de là, donc, on a décidé, mon greffier et moi, d'aller faire un véritable transport sur les lieux, c'est-à-dire d'aller prendre ce pli pour savoir s'il était déjà vivant, s'il était animé ou si c'était simplement comme une araignée, quoi, une toile morte. Et finalement, il était vivant, c'était un papillon qui hibernait. À partir de là, de ce fait divers absolument exceptionnel, j'en ai tiré une nouvelle qui secoue complètement l'institution judiciaire, puisqu'il a fallu quand même ouvrir une information contre X, X étant le lépidoptère.
D'accord, bravo, bravo, bravo. Alors je vois d'autres titres, l'imposture, l'anniversaire à volo, un galopin, l'histoire d'un petit truand amoureux.
Oui, alors le galopin, ça vient tout simplement...
Bon, au bas, on peut demander un galopin.
Et c'est exactement ça. Vous avez trouvé, c'est un monsieur, un repris de justice, qui au bar donc, d'un café prend régulièrement des galopins jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de la fille qui fait le service. Voilà, cet amour-là va le ramener dans la délinquance alors qu'il était normalement, qu'il s'était réinséré.
Thierry Soulard à l'instant à notre micro pour son recueil de nouvelles « Le juge et le papillon ». Un recueil de nouvelles inspiré de son expérience de magistrat. Certaines sont d'un réalisme cru, d'autres d'un humour féroce. En tout cas, c'est à découvrir aux éditions Raison et Passion. Vous pouvez vous procurer « Le juge et le papillon » chez votre libraire ou alors... vous pouvez le commander sur le site des éditions Raison et Passion, www.raisonetpassion.fr. Lorsqu'on est à Saint-Honoré-les-Bains, il convient de rappeler que cette station thermale Morvandelle était connue pour sa fête des fleurs. Une fête qui n'existe plus, hélas, mais qui a marqué cette ville durant plus de 100 ans. En effet, chaque année, lors du premier dimanche qui suivait le 15 août, cette fête des fleurs rassemblait un très grand nombre de participants dans le parc thermal pour participer à ce grand concours de chars en fleurs naturelles. Et évidemment, un très grand nombre de personnes se rendaient à Saint-Honoré-les-Bains pour admirer le défilé. Et bien, cette fête des fleurs est le thème de l'ouvrage de Marcel Moutet, que nous avons rencontré le 20 juillet dernier à Saint-Honoré-les-Bains, et il signe un essai aux éditions de l'Armançon qui a pour titre « Il était une fois, la fête des fleurs à Saint-Honoré-les-Bains ». Tout de suite, Marcel Moutet qui nous rappelle l'origine de cette fête des fleurs à Saint-Honoré-les-Bains.
L'origine, c'est la fin du 19e siècle, un peu avant 1900, où le pays s'est retrouvé dans des parcs pour faire la fête. Alors, à Saint-Honoré, c'est d'abord une fête villageoise, avec des danses traditionnelles, des jeux champêtres, et puis vers 1900 apparaissent les premières fêtes des fleurs, avec des chars fleuris d'inspiration niçoise.
Alors cette fête des fleurs, elle a lieu au mois d'août.
Elle a lieu traditionnellement, oui, la deuxième quinzaine d'août. Elle ne va pas changer, son créneau de cette deuxième quinzaine d'août va la suivre durant toute sa vie.
Et alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail de recherche, de collecte, de photographie? Il fallait trouver surtout des supports, montrer la beauté, l'originalité de ces chars. Il y a des animaux, il y a même un avion, il y a même François Mitterrand l'on voit. Alors, donc député et conseiller général de la Nièvre, assisté à cette fête des fleurs en 78, me semble-t-il.
L'idée première, c'était de faire un article pour le magazine Vent du Morvan. Et puis, devant l'étendue du sujet... J'ai tout de suite vu qu'il fallait ça justifier un ouvrage beaucoup plus important. Donc j'ai collecté des photographies, on m'en a apporté. J'ai fini par le numérique, bien sûr, qui nous a donné des photos exceptionnelles, d'une qualité exceptionnelle. Et puis cette fête va, partant de la Belle Époque, traverser toute l'épopée thermale de Saint-Honoré, va s'y adapter, reprendre les goûts de la clientèle, avec des chars par exemple très simples vers les années 20 et 30, des sombrelles fleuries merveilleuses. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, la fête va prendre une autre dimension, elle va se colorer. Les chars vont être entièrement couverts de fleurs.
Alors, des fleurs pas seulement artificielles?
Non, des fleurs naturelles, le dahlia, surtout le dahlia qui va être la fleur reine de la fête des fleurs. Nous en parlions tout à l'heure avec madame, c'était une fleur qui n'a pas d'odeur mais qui est très très belle pourtant. Et on va arriver avec à des chars monumentaux, le savoir-faire va se développer, s'affirmer, Et on va arriver aussi avec des chars vraiment magnifiques vers les années 80-90 et jusqu'à 2011.
Marcel Moutet, la quatrième de couverture précise ouais. qu'il s'agit d'une aventure humaine et sociale.
Oui, bien sûr, la fête des fleurs, c'était aussi la vie thermale. La vie thermale, mais non seulement la vie thermale, mais la vie du pays et de la région. Les gens de la région.
Alors, je sais que ça vous tient à cœur. Vous avez intégré dans ce bel ouvrage très richement illustré des photographies d'un mosaïste qui vous est cher. C'est Christian Gerber.
Christian Gerber, oui. Christian Gerber a eu une vie vraiment de travail, mais une vie de passion, je dirais. Il est venu à Saint-Honoré pour construire l'hôtel Bristol Thermal. Que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Et puis, il a été engagé au terme. Et au terme, il a été un peu l'homme à tout faire au point de vue, disons, maçonnerie, entretien du parc. Et comme il excellait dans ce travail, bien, tout de suite, il a eu la confiance de la direction. Et il a participé à la construction de nombreux chars. Et aussi des mosaïques du parc. Ce que l'on appelle les mosaïques du parc, ce sont des bancs couvert des mots de Brillard, très dans bien. Un style art déco.
Marcel Moutet, à notre micro. Marcel Moutet, très soucieux que cette fête des fleurs ne tombe pas dans l'oubli, donc a rassemblé patiemment des documents qui constituent l'album souvenir dont il vient d'être question et qui a pour titre « Il était une fois la fête des fleurs à Saint-Honoré-les-Bains ». C'est aux éditions de l'Armançon, un essai pour laisser une trace de cette manifestation centenaire qui contribua aux belles heures de la cité thermale Morvandelle. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Alors, autre information, Salon du Livre, gros et très très beau Salon du Livre. Je vous informe de la tenue de la 7e édition de Livres en Vigne. C'est les samedis 27 et dimanche 28 septembre prochain. C'est au château du Clos de Vougeot, une manifestation qui se tient au cœur du vignoble bourguignon et qui est organisée par notre amie Evelyne Philippe. Alors, la présidente de l'édition 2014 sera l'académicienne Dominique Bonnat, et comme chaque année, le président d'honneur en est Jean-Robert Pitt. Livre en Vigne 2014 réunira quelques 90 écrivains, dont une trentaine sur la thématique du vin, de la vigne et de l'art de vivre. C'est une édition 2014 qui rendra notamment hommage à l'écrivain Colette, disparu il y a 60 ans. Et bien évidemment, l'édition 2014 commémorera le centenaire de 1914-1918. Tout le programme détaillé, les auteurs, les rencontres, les débats, les activités de cette 7e édition de Livres en Vigne sur internet et sur le site www.livresenvigne.com. Je précise d'ailleurs au passage que le 24 septembre prochain, mercredi 24 septembre à 21h, nous recevrons l'organisatrice de Livres en Vigne. Evelyne Philippe sera en notre compagnie pendant une heure, non seulement pour faire sa connaissance, mais aussi pour permettre à Evelyne Philippe de décliner le programme de cette 7e édition. Place à la musique, tout de suite, voici venir Mélissa Nkonda, Nouveaux Horizons. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite du compte-rendu de la 21e édition de Bain de Livres à Saint-Honoré-les-Bains.
Transporte-toi vers de nouveaux horizons, de nouveaux horizons, entouré de verre. ce sera pas long. Transporte-toi vers de nouveaux horizons.
Nouveaux horizons, à l'instant, par Mélissa Nkanda sur Radion. Vous écoutez Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 21e édition de Bains de Livres à Saint-Honoré-des-Bains qui a rassemblé salle Sidney Béchet le 20 juillet dernier, une trentaine d'écrivains, parmi lesquels Philippe Villain, romancier, qui était invité d'honneur de cette édition de Bains de Livres avec son roman « Pas son genre » qui a été très récemment adapté au cinéma par Lucas Bellevaux avec Émilie Duquesne et Loïc Corbery. Alors nous avons rencontré Philippe Villain le 20 juillet dernier pour ce roman « Pas son genre » dans lequel un jeune professeur de philosophie d'origine parisienne est affecté dans une ville du nord de la France. Déçu de cette affectation, nostalgique de sa vie dans la capitale, les premiers temps sont pour lui une épreuve. Il rencontre Jennifer, une coiffeuse, qui devient son amante. Tout les oppose pourtant, l'appartenance sociale et les ambitions, le langage et les goûts. Alors est-il possible pour un professeur d'aimer une coiffeuse? Début de réponse par l'auteur de Pas son genre, Philippe Villain.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, tous mes textes depuis le début sont centrés autour du sentiment amoureux que j'ai décliné. Alors avec les premiers textes, sur la jalousie, la paternité, la différence d'âge, etc. Et là, avec Pas son genre, j'ai choisi de traiter de la différence sociale et culturelle en amour, en mettant en scène deux personnages que tout opposait au départ. Culturellement et socialement, à savoir le professeur venant d'une origine bourgeoise, traditionnelle, plutôt catholique, et agrégé de philosophie, donc avec une certaine éducation, et puis la coiffeuse issue d'un milieu populaire et exerçant sa profession dans un salon de coiffure tendance, le plus chic de la ville d'Arras. Et Arras, c'est la ville où le professeur a été affecté. Donc la question pourrait se résumer à une sorte de sujet de dissertation, justement, parce que c'est écrit par le professeur de philo. Peut-on aimer en dehors de sa sphère sociale et culturelle? Voilà. Alors moi, je pose des questions, je suis un empêcheur de tourner en rond, j'aime bien embêter les gens. Je n'ai pas forcément les réponses. Ma bonne conscience m'incline et m'incite à penser que peut-être, j'ai envie d'y croire moi-même, que tout le monde peut rencontrer tout le monde et que en amour, les sentiments, toutes les rencontres, enfin tout est permis. Or, il me semble que dans la réalité, les choses sont évidemment, et malheureusement, beaucoup plus complexes.
Donc tout est permis un certain temps. Tout est durable, oui, voilà. Est un risque en fait. Il y a un risque, ça ne dure pas en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est dans ce type de couple déséquilibré, dans un rapport de force faussé d'avance, effectivement, le durable risque d'être compromis dans la mesure où, pour fonctionner sur la durée, un couple a besoin de s'entendre sur une affinité de goût, de passion commune et des choses de cet ordre-là et pour qui vont cimenter au quotidien justement ce couple. Et là, évidemment, les dés sont pipés d'avance, si je puis dire, dans la mesure où les goûts sont complètement différents, où la culture est complètement différente et elle ne peut justement se relier, elle ne peut justement relier l'un à l'autre et se cimenter comme dans tout autre couple.
Le professeur de philosophie essaie de faire découvrir des textes un petit peu ardus, oui, des textes audacieux à Jennifer qui, elle, est plutôt plongée dans les magazines People ou alors elle lit des romans, bon, on va dire, de littérature populaire. Alors, est-ce que le sexe fonctionne? Mais finalement, ce n'est pas tout.
Oui, c'est ça, c'est un peu le déséquilibre de leur relation, mais peut-être en même temps, ça n'est pas le principe de toute rencontre et de toute relation amoureuse au départ, à savoir une attirance physique aussi. On est aussi des animaux sociaux, mais des animaux, c'est-à-dire que on se rencontre d'une manière, je vais le dire, prosaïque, mais en quelque sorte parce qu'on est attiré, et on est une attirance physique d'abord aussi. Sinon, si sans cette attirance physique, cela relève de l'amitié quelque part. On peut s'entendre avec quelqu'un très bien, profondément, mais tout en restant ami. Et là évidemment, je pense que dans une telle relation déséquilibrée, le couple ne peut durer que le temps de la passion. Et la passion, évidemment, ne dure par essence que très peu de temps.
C'est la raison pour laquelle c'est pas son genre.
Voilà, c'est pas son genre. C'est tiré d'une phrase de Proust du côté de chez Swann, la dernière phrase. Où le narrateur dit « dire que j'ai aimé passionnément, dire que j'ai voulu mourir ». Alors je cite de mémoire très mal « pour une femme qui n'était pas mon genre ». Et j'ai repris effectivement ce petit clin d'œil proustien dans mon titre.
Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement la durée, c'est finalement aussi cette expérience.
Oui, voilà, le principal, mais peut-être dans tout, ça a valeur dans tout, c'est-à-dire que on ne peut pas donner comme instrument de mesure ou comme valeur ou comme critère la durée comme seul critère de la qualité d'un amour. Pour moi, ça n'est pas forcément la durée. C'est pas parce qu'un amour dure 20 ans qu'il est meilleur qu'un amour qui dure un an. C'est la façon, c'est l'intensité qu'on y met, le sens qu'on y donne. Et à mes yeux, effectivement, la durée peut être un inconvénient. Beaucoup de couples restent ensemble, non pas parce qu'ils s'aiment toujours ou parce que le sentiment dure, mais parce qu'ils sont attachés aussi à des choses matérielles et que ça serait trop difficile de renoncer à tout ça. Il y a aussi une certaine hypocrisie dans la durée, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'ériger en valeur et en modèle. Alors je dis ça de façon générale, après il faudrait raffiner et détailler. Au cas par cas.
Philippe Villain, à l'instant, pour son roman Pas son genre, disponible aux éditions Grasset. C'est donc avec lui que nous allons refermer cette émission et clore ce compte-rendu de la 21e édition de Bain de Livres à Saint-Aulp. Vous retrouverez d'ailleurs d'ici quelques jours cette émission en ligne sur le site de Radion, hein, www.radion.fr. Vous y retrouverez à la fois le nom des auteurs interviewés et les références des ouvrages dont il a été question. Je vous rappelle quelques petites informations sur les prochains salons du livre en Bourgogne. Ce week-end, c'est à Vézelay, c'est le premier rendez-vous de RVLE, les rendez-vous du lire et de l'écrire, qui rassemble des auteurs, des éditeurs, des libraires, la bibliothèque municipale de Vézelay, et puis des journalistes. Je me dois quand même de préciser qu'il y aura des tables rondes et des débats animés par Christine Siméon de France Inter et Yannick Petit de Radion. Tiens, j'ai l'impression que vous le connaissez. En tout cas, parmi les auteurs, signalons Adeline Baldacchino, Jean-Pierre Canet, Sandrine Colette, Jean-Paul Didier Laurent, Dominique Drouin, Pascal Fautrier, Denis Grosdanovitch, Alain Kévès, Jean Lacoste, Philippe Lançon, Christian Limousin, Geneviève Peignet, Bruno Poissonnier, Jacques Robert, Pascal Rose, prix Goncourt 1996, Mathieu Sapin, auteur de bandes dessinées, donc RVLE, les rendez-vous du lire et de l'écrire, c'est à Vézelay et c'est ce week-end. Programme détaillé sur le site de l'association RVLE, vous tapez les rendez-vous du lire et de l'écrire à partir d'un moteur de recherche. Dimanche 7 septembre, cette fois-ci c'est dans la Nièvre et c'est dans le petit village de Saint-André-en-Morvan de 10h à 18h, salon du livre donc à Saint-André-en-Morvan avec deux invités d'honneur, le photographe saône-et-loirien Laurent Janin et l'homme de radio Guy Carlier. Le 5 octobre, dimanche 5 octobre, cette fois-ci c'est dans le département de l'Aube, se tiendra le salon du livre d'Herville-Châtel, c'est à la salle des fêtes de cette petite ville, de 8h à 18h, donc le 5 octobre, salon du livre d'Herville-Châtel, contact et renseignements auprès de Dominique Griner au 03 25 76 88 78, Dominique Griner au 03 25 76 88 78. Prochain rendez-vous de Wagon Livre mercredi prochain, 10 septembre à 21h, toujours sur Radion. Nous recevrons Isabelle Asensio pour son dernier roman « Un poisson sans bicyclette ». C'est aux éditions Verticales, un roman sorti en février 2014. L'émission a d'ailleurs été enregistrée en juillet dernier à la librairie L'Autre Monde à Avalon. Et n'oubliez pas d'ailleurs, le 12 septembre, nous serons en public pour l'enregistrement d'une nouvelle émission Wagon Livre. Nous serons en compagnie de Daniel Chambon, auteur d'un récit de vie sur son grand-père intitulé « Monsieur Léon, juif russe ». Daniel Chambon qui signe aux éditions de Paris Max Chalaïb le récit de vie de son grand-père, juif russe, qui quitta la Russie tsariste pour s'exiler en France au début des années 1900. N'oubliez pas que vous pouvez devenir ami avec l'émission littéraire de Radion sur Facebook. Vous demandez Wagon Livre Yannick Petit en ami. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, dernier week-end de septembre, la 7e édition de Livres en Vigne. C'est la première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Mais on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler plus longuement dans notre émission. Excellente fin de soirée, merci de votre écoute. À mercredi prochain, au revoir.